Super Fail, Guillaume Erner.
Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer.
Super Fail.
Et si le lieu emblématique de la réussite était aussi la patrie de l'échec? Ce lieu, c'est la Silicon Valley en Californie, aux États-Unis, probablement le centre du monde de l'innovation, un lieu où l'on autorise l'échec, et c'est pourquoi, probablement, on y réussit. C'est le Super Fail de la semaine. En compagnie du sociologue Olivier Alexandre, chargé de recherche au CNRS, il publie « La tech, quand la Silicon Valley refait le monde » aux éditions du Seuil.
C'est la plus grosse faillite bancaire depuis la crise de 2008. Celle de la Silicon Valley Bank, cet établissement spécialisé dans le capital risque dont la fermeture a été annoncée ce vendredi. Ce dimanche, la secrétaire américaine au Trésor a écarté tout renflouement de l'établissement.
Je tiens à préciser que pendant la crise financière, des investisseurs et des propriétaires de grandes banques systémiques ont été renfloués et que nous ne cherchons certainement pas à le faire. Et les réformes qui ont été mises en place signifient que nous n'allons pas recommencer.
Alors, le système est solide, le système américain bancaire est solide, comme l'est d'ailleurs le système européen. Là, ce que ça dit surtout, c'est qu'il y a une remise en cause des fondements économiques des startups, des fondements économiques de la tech, quelque part de la Silicon Valley, quelque part aussi de tous les paris qu'on a pu faire sur ces entreprises de la nouvelle économie, comme on le disait, et qu'on est peut-être un petit peu allé trop loin. Il y a eu une époque effectivement très euphorique avec abondance de liquidités, du capital à de nombreux investissements dans la tech et aujourd'hui on est dans un processus de rationalisation.
Et l'échec dans la Silicon Valley, c'est tout d'abord la faillite de la banque éponyme, la Silicon Valley Bank, spécialisée dans le financement des entreprises de la tech. On écoute à ce sujet Olivier Alexandre.
Le cas de la Silicon Valley Bank, il est intéressant à plus d'un titre, tout d'abord parce que ça informe et ça nous informe sur la manière dont le capital est organisé au sein de la Silicon Valley, qui attire beaucoup les regards et les fortunes, et la réputation de la Silicon Valley, c'est qu'on peut y faire fortune assez rapidement. En réalité, c'est un type de capitalisme assez atypique, qui est un capitalisme qui repose sur du venture capital, qui est un mode de financement qui trouve ses origines, alors les historiens débattent un peu sur cette question, mais dans les années 30, 40, 50, qui consiste en fait à anticiper, mutualiser le risque pour des entreprises risquées, notamment celles de nouvelles technologies, dont il est très difficile de savoir ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher, et quelles sont les technologies du futur. Et la Silicon Valley s'en est fait une spécialité à partir des années 1970, avec l'arrivée notamment de l'informatique personnelle, avec un certain nombre de grands succès allant de Apple à Sun Microsystems. Et à partir des années 80, on a vu arriver des agences bancaires un peu plus traditionnelles, mais en même temps socialisées à cette forme atypique de capitalisme, dont la Silicon Valley Bank, créée en 1983, qui a servi jusqu'à ce jour de banque de référence pour les capital risqueurs. Même si elle faisait traditionnellement assez peu de crédit, et notamment assez peu de crédit aux entrepreneurs et aux startups. C'était plus une banque de dépôt, mais par contre qui fonctionnait comme une banque de prêt et de réassort pour les capitaux risqueurs qui pouvaient y déposer leur argent. Je fais cette petite précision que les capitaux risqueurs sont des intermédiaires en fait, et des gens qui lèvent de l'argent auprès de gros fonds, notamment des fonds de pension, des grandes fortunes, et qui s'engagent sur 4 à 8 ans. Et donc parfois qui se trouvent dans une situation de milieu du guet et qui ont besoin d'emprunter de l'argent avant de pouvoir l'encaisser auprès de ces grands comptes, sans cesser de l'investir auprès d'entrepreneurs et de start-up. Donc en fait c'est un système assez complexe, assez atypique, qui repose vraiment sur deux jambes. Hein. La confiance, ça c'est assez traditionnel dans les institutions bancaires, mais aussi dans l'anticipation de l'avenir. Et c'est vraiment ça qui est la grande affaire de la Silicon Valley.
L'une des caractéristiques de la tech, c'est le nombre très élevé de projets qui ne vont pas à terme. D'après Olivier Alexandre, 90% des entreprises technologiques disparaîtraient au bout de 5 ans aux États-Unis. Et pourtant, dans la Silicon Valley, on ne s'en formalise pas. On écoute Olivier Alexandre.
Ça, c'est la caractéristique de la Silicon Valley, c'est de faire des succès tellement grands qu'ils font oublier l'entièreté des échecs. Et la Silicon Valley est vraiment un cimetière des éléphants. Moi, c'est une image que j'aime bien. J'appartiens à la génération des années 80 et je grandissais... J'ai grandi un peu devant la télévision et vous savez, il y avait ce personnage, Jérôme Bonaldi, qui était sur Canal+, qui venait présenter des nouveautés, des gadgets, et il en faisait des démonstrations qui, une fois sur deux ou deux fois sur trois, ne marchaient pas. Et ça, c'est quelque chose d'assez caractéristique, en fait, des nouvelles technologies qui sont des outils, des pensées, des rêves, des rêveries, des projets qui sont en fait extrêmement fragiles et vulnérables, hein. C'est vraiment une usine du raté. Quand on fait de la tech, et la tech c'est un gros mot pour recouvrir énormément de choses, mais quand on fait du logiciel jusqu'à de la biotechnologie, c'est vraiment des projets qui sont enfin, tout le temps à affiner. Et la règle mathématique, quasiment, c'est celle du 90-10, c'est-à-dire qu'on aura 90% d'échecs pour 10% de réussite, et ça se retrouve aussi bien au niveau des projets que des produits qui sont lancés sur le marché, que des organisations. C'est un ancien employé de Facebook qui disait que en fait, les produits au sein même de Facebook, qui a les moyens de porter des produits, en fait, étaient exposés à la même loi que je viens d'évoquer, c'est-à-dire que 90% des produits qui étaient lancés étaient abandonnés au bout de quelques mois, faute d'utilisateurs et d'utilisatrices.
Le journaliste Anthony Morel sur le plateau de Tech & Co. le vendredi 24 mars 2023.
Alors déjà, Zuckerberg, effectivement, même s'il ne le dit pas publiquement, il a envoyé une lettre à ses troupes, à ses salariés, où il explique, alors il ne dit pas le métavers est mort, évidemment, continue à investir, il continue à croire que ça va être le futur d'Internet, mais il dit notre priorité numéro un maintenant, c'est l'intelligence artificielle. C'est-à-dire c'est la lutte face à ChatGPT, GPT-4, etc. On sait qu'ils ont un système qui s'appelle Llama, oui. Qui a fuité d'ailleurs sur Internet et qui est visiblement très performant, mais bon, les investissements vont aller dans cette direction-là, premièrement, et le métavers, c'est après. Alors que le métavers, jusqu'ici, c'était le pilier stratégique de la croissance de... Enfin, ils ont quand même changé de nom pour ça. Hein. Ouais, Meta, clair. Il s'appelle Meta parce que c'était l'avenir d'Internet, c'était le futur d'Internet, c'était ça.
Alors bien sûr, l'échec n'est pas sanctionné dans la Silicon Valley à condition que l'entrepreneur parvienne à rebondir.
En fait, c'est une socialisation assez profonde hein, dans le nord de la Californie, déjà positivée beaucoup. Et en fait, les mécanismes sociaux de sanction de l'échec sont un peu différents de ceux qu'on connaît en France. En France, ça va être facilement la honte, l'humiliation et l'autodénigrement. Alors qu'aux États-Unis, à la condition qu'on soit capable de réengager un projet, c'est la valorisation. Si on n'est pas capable de réengager un projet, en fait, ça va être l'effacement progressif, c'est-à-dire qu'on est un peu ignoré par ses pairs. Et surtout, ça, c'est la grande différence qu'avait déjà pointé l'historien, sociologue, économiste Zombard au tournant de la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, c'est qu'aux États-Unis, en fait, on peut toujours se déplacer. On peut aller dans un autre État, on peut aller dans un autre secteur, on peut aller dans un autre pays, on peut retourner dans son pays. Et ça change tout, en fait, parce qu'on n'a pas apporté le poids de l'échec. On peut se déporter, ce qui fait que ça change énormément de choses, ça change sa mentalité, ça change le regard que les autres posent sur soi. Par contre, quand on déroge à la règle, et il y a des règles qui sont en petit nombre dans la Silicon Valley, mais qui sont respectées avec beaucoup de sévérité, si on déroge à la règle, on est saqué, on est sanctionné, on est exclu, moralement, juridiquement, économiquement.
Un reportage de France 24 consacré à la patronne de Theranos, Elizabeth Holmes, reconnue coupable de fraude et d'escroquerie.
Après 7 jours de délibération, le jury a rendu son verdict. Elizabeth Holmes est condamnée pour fraude.
Le verdict dans cette affaire reflète la culpabilité d'Elizabeth Holmes dans cette fraude à grande échelle des investisseurs. Et elle doit maintenant être condamnée pour ses crimes.
À l'issue de 3 mois de procès, la fondatrice de Theranos qui promettait de révolutionner les tests sanguins est reconnue coupable d'escroquerie. Selon le jury, elle aurait délibérément trompé ses investisseurs pour lever plus de 700 millions de dollars.
I've got 90,000 pounds in my pyjamas. I've got 40,000 French francs in my fridge. I've got lots of lovely lira. Now the Deutsche Mark's getting dearer and my dollar bills would buy the Brooklyn Bridge. There is nothing quite as wonderful as money. There is nothing quite as beautiful as cash. Some people say it's folly, but I'd rather have the lolly. With money you can make a splash. There is nothing
quite as wonderful as money.
Money, money, money.
There's nothing like a newly minted pound.
Money, money, money.
Everyone must hanker for the butchness of a banker. It's accountancy that wakes the world around.
Round, round, round.
You can keep your Marxist ways, but it's only just a phase. For it's money, money, money makes the world go round.
Money, 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 money.
L'échec n'est pas sanctionné si on le reconnaît. Dans un monde aussi incertain que la Silicon Valley, la transparence est de mise.
Une manière de se protéger face à cette incertitude, c'est vraiment de communiquer. C'est vraiment l'information. L'information à tous les niveaux, en fait. L'information entre les entrepreneurs et entrepreneuses et leurs employés, mais aussi les entrepreneurs et entrepreneuses et leurs investisseurs, et qui est vraiment en fait une garantie. Et qui protège d'une certaine façon parce que ça conditionne la réputation, ça conditionne la crédibilité, qui est vraiment le capital en fait crucial dans le domaine des nouvelles technologies, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Le principal capital qu'on peut porter, c'est sa crédibilité, puisque c'est une économie de paris, et donc on aura plus tendance à donner de l'argent à quelqu'un qui présente tous les gages de confiance versus quelqu'un qui ne les présente pas. Quelqu'un qui ne les présente pas ou qui ne les présente plus est absolument mort du point de vue des investisseurs. Précisément parce qu'il a perdu tous ses gages de moralité.
Enfin, la place de l'échec dans la Silicon Valley s'accompagne d'une certaine vision politique et sociale du monde.
Bah oui, quand même. Y a un point qui est important parce que la Silicon Valley, c'est loin, ça fascine. Y a du soleil, c'est devenu un objet culturel. Mais c'est aussi une proposition et un modèle politique et social extrêmement forte. Qui repose sur l'entrepreneuriat, qui a tendance à tous et toutes nous transformer en entrepreneurs et entrepreneuses. Les grandes solutions phares de la Silicon Valley tendent à ça, hein, que ce soit Uber, les outils collaboratifs de Google ou des réseaux sociaux comme LinkedIn ou Facebook. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est un peu un système qui est fait pour les gagnants, et dont on ne sait pas trop quoi faire des perdants, ce qui autorise du coup à absolument pas considérer la question sociale, la question des dispositifs sociaux d'accompagnement, la question de la mutualisation des risques, la question de la solidarité, puisqu'en fait, c'est quasiment pas un problème du point de vue de la Silicon Valley. Il y a ceux qui réussissent, il y a ceux qui ratent, mais ils vont ailleurs, ils font autre chose, et puis finalement, les laissés pour compte, les petites mains, les cols bleus, sont vraiment les grands perdants de l'affaire, et la seule chose, le seul prix de consolation, c'est de leur faire croire qu'ils pourraient ou ils pourront réussir dans ce système.
La morale de l'histoire, c'est que les losers de la Silicon Valley sont tolérés s'ils sont de futurs winners. L'échec est donc admis s'il est provisoire, s'il n'est qu'un passage obligé vers la réussite. On peut lire à ce sujet l'ouvrage d'Olivier Alexandre, « La tech quand la Silicon Valley refait le monde », c'est aux éditions du Seuil. Superfell a été foiré à la technique par Valentin Bobinet, dévasté à la réalisation par Mylia Portis-Guérin et Vivien Demeyer, et enfin dévasté à la production par Juliette Deveau. Superfell.